vous retrouve ce soir et que nous nous retrouvons ensemble donc autour surtout de la bonne parole du Seigneur. Je voudrais prendre, si vous le voulez bien, un petit temps pour répondre à une question qui a été posée. Plusieurs questions ont été posées. La directive qui avait été donnée, c'est que les questions qui étaient posées, il fallait les poser vraiment dans le cadre du sujet qui est abordé, parce que c'est pas possible de répondre, sinon, toutes sortes de questions. Donc plusieurs questions ont été posées, et j'ai pensé qu'une question pouvait rentrer dans ce cadre, puisque c'était une demande d'éclaircissement sur un texte du livre de l'Exode, au chapitre 20, au verset 5. Exode chapitre 20, verset 5, vous savez, c'est ce texte qui dit ceci, c'est Dieu donc, qui est en train de donner la loi donc, à Moïse sur la montagne, une loi qui est écrite, elle n'a pas été inspirée, elle a été écrite avec le doigt de Dieu. Alléluia. Voilà, sur des tables de pierre, il faut le rappeler. Mais ce texte dit ceci, je me disais, tiens, mais est-ce que j'ai bien lu? Voilà, Exode chapitre 20, verset, c'est Exode chapitre 20, verset 5. Hein, voilà. Dans la version seconde, donc, tu ne te prosterneras point devant elle et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et à la quatrième génération de ceux qui me haïssent et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Voilà. Donc, cette personne voulait un petit éclaircissement sur ce texte-là. La première des choses que je voudrais dire, voilà, c'est que si nous lisons rapidement ce texte, on a l'impression que Dieu, c'est un Dieu jaloux, donc, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, mais on comprend, en fait, que les enfants sont punis à cause de l'iniquité de leurs parents. C'est involontaire, en tout cas, notre esprit fait comme ça, quand on le lit rapidement, c'est ce qu'on comprend. Alors, j'aimerais vous dire que ce n'est pas du tout ce que dit le texte, originel en hébreu. Certaines versions, la version, il y a plusieurs versions. Bon, écoutez, je ne vais pas prendre les versions. D'abord, je voudrais faire une première observation, c'est que ce texte, il appartient vraiment à l'ancienne alliance. Nous sommes là au moment précis où le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, sur le mont Sinaï, est en train de transmettre sa loi à Moïse pour le peuple de l'ancienne alliance. Et quand nous sommes dans l'Ancien Testament, nous sommes dans l'ancienne alliance. Et donc, pour ce qui concerne les chrétiens que nous sommes, qui sont nés de nouveau par la grâce de Dieu, qui sont nés de l'Esprit, nous ne sommes plus du tout concernés par ces textes législatifs. Nous ne sommes plus du tout sous ce précepte. Regardez ce que dit l'Épître aux Galates. Voilà. Au chapitre 3, versets 23 à 25. Voilà. Galates, chapitre 3, versets 23 à 25. Avant que la foi vînt, c'est-à-dire la foi dans son contenu doctrinal. Ce mot « foi », il a deux sens dans le Nouveau Testament. Il a la foi en tant que contenu doctrinal, et puis il y a la foi en tant que capacité pour les hommes de croire, de saisir les promesses de Dieu. Là, la signification de ce mot « foi », c'est le contenu doctrinal. Avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la foi, de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Voilà. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ afin que nous soyons justifiés par la foi. Écoutez bien maintenant, la foi étant venue dans son contenu doctrinal, donc nous ne sommes plus sous ce pédagogue, c'est-à-dire sous la loi, sous cet enseignement. Nous n'y sommes plus. Donc ça, c'est une première observation. Deuxième observation par rapport à ce texte, c'est que ce texte fait partie, en effet, des choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre. En fait, pour comprendre ce texte, il faudrait expliquer l'expression « un Dieu jaloux ». Il faudrait expliquer l'expression « jusqu'à la troisième et à la quatrième génération de ceux qui me haïssent ». Et il faudrait expliquer, comment dirais-je, le terme hébreu qui est que second a rendu par « puni ». Voilà. Nous n'avons pas le temps, pas le temps ce soir, donc je donne juste quelques explications. Nous ne sommes plus sous la loi, mais nous sommes désormais sous la grâce, c'est-à-dire sous l'enseignement. Nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et prophètes de Christ. Voilà, le fondement des apôtres et prophètes de Christ. Éphésiens chapitre 2, verset 19 et 20. Pierre, dans sa seconde épître, je vais simplement le lire, il est question de son bien-aimé frère, l'apôtre Paul, dont il parle, et il dit, c'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, écoutez bien, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres Écritures, pour leur propre ruine. Voilà. Donc ça, c'est la deuxième observation. Ensuite, j'aimerais peut-être aller à quelques autres versions de la Bible. Par exemple, la version Darby traduit « Je suis un Dieu jaloux qui visite l'iniquité des pères sur les fils, c'est-à-dire il visite en fait il visite un père a vécu dans l'iniquité avec sa famille, ses enfants, et puis vous savez que les enfants, eh bien ils acquièrent la connaissance par mimétisme, ils reproduisent le modèle, souvent le modèle parental, voilà, et donc ils s'approprient les bonnes choses comme les mauvaises qui leur viennent de leurs parents. Et vous savez que nous avons hérité de nos parents une vaine manière de vivre. Voilà. Donc, mais il faut noter que ce verbe « pakad », c'est le verbe en hébreu, c'est la racine trinitaire donc en hébreu, que second traduit par « puni », c'est une traduction, si j'ose m'exprimer ainsi, qui n'est pas très heureuse, c'est pas très heureux, parce que ce verbe, en fait, c'est un verbe assez courant dans l'Ancien Testament, et il est souvent traduit par faire le compte, faire le dénombrement, dénombrer. C'est un verbe qui est souvent utilisé dans le livre des Nombres, évidemment, en particulier, vous savez, le livre des Nombres, où il y a souvent des dénombrements qui sont faits. Eh bien, faire le dénombrement, c'est ce verbe qui est utilisé. Voilà. D'autres versions. Voilà, par exemple, la version du rabbinat français, donc de Zadokan, dit ceci. Je suis un Dieu jaloux qui poursuit le crime des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération. La version anglaise, même si vous ne parlez pas anglais, vous allez comprendre. Parce qu'il est dit, voilà, c'est le terme « visiting »,« visiting ». C'est visiter, vous voyez, voilà. C'est tout simplement « visiter », voilà. C'est la King James, c'est la version vraiment la plus répandue. L'American Standard Version utilise le même terme, visiter. S'il y a des Espagnols qui lisent l'espagnol, qui parlent l'espagnol, ils seront heureux de découvrir que dans la principale version espagnole, la Reina Valera, le terme qui est utilisé, c'est « que visito la maldad de los padres sobre los hijos ». « Que visito », c'est qui visite, voyez. En fait, il faut comprendre ce mot « pacad ». Dieu regarde, en fait, ce Dieu qui nous aime. Il regarde dans la descendance, eh bien, comment se comportent les enfants par rapport au péché de leurs parents, avec ce souci de pouvoir les sauver, de pouvoir les délivrer, de pouvoir leur parler, les ramener dans le giron de son amour et de sa grâce. Voilà. C'est ça la pensée. Voilà. La pensée de notre Dieu, c'est que sa miséricorde est le triomphe du jugement. Et Dieu cherche, vous voyez, Dieu, ce n'est pas un Dieu qui se tient derrière nous pour voilà, essayer de nous surprendre, pour « Ah, ça y est voilà, je t'ai pris, maintenant, ton compte est bon. » Mais pas du tout, pas du tout. Notre Dieu, c'est avant tout un Père qui nous aime et qui veut nous délivrer. Et pourquoi Dieu ne punira jamais les enfants à cause de l'iniquité de leur père? Tout simplement parce que la Bible enseigne le sens de la responsabilité individuelle et personnelle. Et ça, c'est déjà enseigné dans l'Ancien Testament, notamment, je voudrais le lire cette fois, le prendre avec vous, dans Ézéchiel, et je m'arrêterai là avec les explications, peut-être, voilà, Ézéchiel chapitre 18, voici ce que nous lisons, verset 1er, voilà. Pourquoi dites-vous ce proverbe dans le pays d'Israël? Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées. Alors vous voyez, j'ouvre encore une petite parenthèse, les tenants de cette fausse doctrine qui consiste à dire que eh bien, les malédictions des parents sont transmises sur les enfants. Et même quand on est né de nouveau, il faut traiter ce problème-là parce que, eh bien, c'est grave, il peut y avoir de graves conséquences, on peut être sous le jugement, sous la condamnation de Dieu, etc. Ce qui est faux, il faut le dire, voilà, il faut le dire. Et là, il s'appuie donc notamment sur ce proverbe qui n'a jamais été un proverbe biblique du Seigneur. C'était un dicton populaire à l'époque. Et d'ailleurs, Dieu dit, pourquoi dites-vous, eh bien, ce proverbe dans le pays d'Israël, les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants n'ont été agacées. Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, vous n'aurez plus lieu de dire ce proverbe en Israël. Vous n'aurez plus lieu de le dire. Pourquoi? Alors, vous pourrez le lire donc chez vous, n'est-ce pas? Mais voilà, le verset 20. Voilà, le verset 20, au verset 20, c'est bien de prendre le verset 20, s'il vous plaît. Voilà. L'âme qui pêche, dit le Seigneur, donc, hein, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père, et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. La justice du juste sera sur lui et la méchanceté du méchant sera sur lui. C'est clair, me semble-t-il, non? Il me semble que c'est très clair. Après, si on regarde même les exemples, même dans l'Ancien Testament, souvenez-vous du roi Akaz, qui a été un roi, comment dirais-je, très impie, qui s'est avancé très loin dans le domaine du mal, du péché, de l'iniquité. Mais on se rend compte que le fils d'Akaz, comment s'appelait-il? Oui. Le pasteur, non. Oui, il s'appelait Ézéchias. Voilà. Mais Ézéchias, il n'a pas subi le châtiment à cause des péchés d'Akaz. Non. Il s'est détourné des péchés d'Akaz. Il n'a pas repris à son propre compte les péchés qu'il avait chez son père. Dieu l'a vu et Dieu a été avec lui. Et c'est ça la parole de Dieu. Voilà. Malheureusement, Ézéchias, il a eu un enfant, un descendant qui s'appelait Manassé. Et lui, il n'a pas repris à son compte les bonnes choses qu'il avait vues chez son père, mais il a repris les choses qu'il avait vues chez son grand-père. Vous voyez, c'est toujours personnel. J'ai mis devant toi le bien, le mal, la vie, la mort, la bénédiction, la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives et que tu sois heureux, etc. C'est une question de choix. Voilà. Et même quand on fait le mauvais choix, comme Manassé l'a fait, Dieu prépare toujours un moyen de grâce. Toujours. Et si vous lisez 2 Chroniques, chapitre 33, vous verrez que le roi Manassé, Dieu a fait venir les Assyriens, il l'a emmené captif, couvert de chaînes. Dans sa prison, il nous est dit qu'il s'est humilié profondément devant l'Éternel. Et vous le lirez, l'Éternel se laissant fléchir. Le Seigneur a été touché de voir la détresse dans laquelle se trouvait le fils d'Ézéchias. Et devant sa repentance sincère, il l'a fait délivrer et il l'a ramené dans son royaume. Gloire au Seigneur et gloire à Dieu, n'est-ce pas ? Voilà, donc, voilà, je vais arrêter là. Après, donc, votre pasteur est là et si vous voulez d'autres explications, eh bien, vous irez le trouver. Voilà, je lui fais une petite passe, 2-3 quarts. C'est un pays de rugby ici aussi, hein, voilà. Donc, je voulais juste donner ces quelques éléments d'explication. Je vous invite maintenant peut-être à ouvrir la bonne parole du Seigneur pour revenir sur ce thème de la séduction de l'Église, donc l'Église du 21e siècle face à la séduction spirituelle. Lisons ce premier texte dans l'Épître de Jacques au chapitre 5 et au verset 19. Voilà. Jacques, chapitre 5, verset 19, il est écrit ceci, donc « Mes frères, notez que Jacques, donc le frère du Seigneur, Jacques, « Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité, et que notre... » Le verbe « égaré », là c'est le verbe, encore une fois, le verbe « planao » en grec, ça veut dire « si quelqu'un a été séduit, loin de la vérité, et qu'un autre l'y ramène, donc dans la vérité, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. » Dans ce texte, donc, nous voyons qu'une fois de plus, c'est très grave de s'égarer parce que l'égarement, la séduction, elle conduit à la mort. Telle voie paraît droite à un homme, dit le livre des Proverbes, mais son issue, c'est la mort. Si ce n'est pas la voie du Seigneur, si ce n'est pas la voie de la vérité, l'issue de ce chemin, c'est la mort. Le seul chemin qui mène à la vie, c'est Jésus. Et lorsque nous sommes dans ce chemin, nous voyons que si nous ne sommes pas vigilants, nous pouvons faire l'objet d'une entreprise de séduction, d'une tentative de séduction, nous pouvons tomber dans une séduction. Et si on n'est pas vigilant, on peut même s'égarer. S'égarer. Parce que vous l'avez lu, Jacques, il dit, « Mes frères, si quelqu'un parmi vous, il ne s'adresse pas à des incroyants, il s'adresse à des gens qu'il appelle ses frères. » Voilà. Alors, j'aimerais que nous puissions voir maintenant comment ne pas tomber dans le piège d'une séduction spirituelle à travers divers terrains, justement, qui sont des terrains favorables au développement de la séduction. Il y a peut-être d'autres, mais en tout cas, moi, j'en ai repéré juste 4. D'abord, nous allons prendre les textes, mais je voudrais vous les citer tous les 4. L'ignorance ou la méconnaissance des Écritures et de la puissance de Dieu est une porte d'entrée possible pour une séduction. C'est une porte d'entrée possible. Ensuite, le manque d'amour pour la vérité, entendre la vérité et ne pas la supporter, même si elle est dite avec, si elle est dite avec amour, le manque d'amour de la vérité nous expose au danger d'une séduction. Ensuite, un état d'esprit qui recherche l'indépendance par rapport à l'Église. C'est encore un état d'esprit, eh bien, qui ouvre une porte à une possible séduction. Et puis enfin, un état d'esprit qui est prompt à la révolte et à l'insoumission, nous verrons les textes, eh bien, sont également des états d'esprit eh bien, qui sont favorables au développement d'une séduction. Donc, vous voyez, il faut être vigilant. Alors, attention, marcher sur le chemin du salut, ce n'est pas marcher sur un fil de funambule, hein, je vous rassure. Non, c'est un chemin qui est resserré, c'est un chemin où le Seigneur est là, avec nous, et non seulement il est avec nous, mais il est en nous, et nous, nous sommes en lui, et nous, nous sommes dans sa main. Et pas seulement nous, mais nos destinées aussi. Alléluia. Donc nous sommes en sécurité tant que nous restons dans la main du Seigneur. Nous sommes dans une parfaite sécurité. Et Jésus nous sauve parfaitement tant que nous restons dans sa main. Mais il nous a
ça va mieux, vous voyez. Voilà, très bien. 1, 2. Merci beaucoup. Alors, si vous le voulez bien, nous allons revenir sur le premier élément. Allons lire dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 22. Voilà, je vais essayer de... Voilà, très bien. L'Évangile selon Matthieu, chapitre 22, verset 29. Vous savez, c'est cet épisode de la vie de Jésus où des Sadducéens qui ne croient pas dans la résurrection sont venus trouver le Seigneur Jésus et ils ont essayé de lui poser une colle. Au Seigneur Jésus, quand même. Bon. Alors le Seigneur Jésus a écouté leur petite histoire. Vous savez, c'est l'histoire de cet homme qui s'est marié, d'abord avec, plutôt cette femme qui s'est mariée, voilà, avec un mari, puis le mari est décédé, et puis il s'est remarié donc avec un autre homme, puis il est décédé à son tour, etc. Et finalement, elle s'est mariée 7 fois, et ben, les 7 maris sont décédés. Hein, et les Sadducéens disent au Seigneur, et à la résurrection, ah, eh bien, de qui, donc, duquel de ces hommes, cette femme sera le mari, puisque les 7 l'ont eu pour femme. Et là, ils pensaient qu'ils avaient piégé le Seigneur Jésus. Et la réponse du Seigneur, elle est édifiante parce qu'il leur dit ceci au verset 20, Matthieu chapitre 22, verset 29. Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur. Encore une fois, voyez cette expression dans le texte original, c'est vous êtes séduit. Vous êtes dans une séduction spirituelle parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Alors, nous avons ici donc une porte d'entrée possible à une séduction dans le fait de méconnaître, d'ignorer les Écritures. D'où l'importance, frères et sœurs, pour ce qui nous concerne, eh bien, d'avoir toujours un temps dans la journée où nous allons nous tenir devant le Seigneur et où nous allons être au bénéfice de sa parole. Il y a, lorsque nous abordons avec le désir de connaître le Seigneur, lorsque nous abordons la parole de Dieu, eh bien, dans cette démarche de foi, cette parole, elle devient tout à coup notre manne spirituelle. Cette manne, vous savez, qui est tombée dans le désert pendant 40 années, et l'Écriture, on ne va pas le prendre, c'est Exode chapitre 16, vous le lirez, mais de mémoire, je vais vous citer un petit peu, mais vous savez que cette manne, elle descendait chaque jour. Ça veut dire que c'est chaque jour, bien-aimés frères et sœurs, que... Et c'est en cela que nous devons acquérir cette discipline de vie qui fera de nous des disciples du Seigneur. Parce que nous avons pris conscience d'abord de l'immense amour qui était manifesté dans la personne de Jésus pour venir nous chercher et nous sauver, et à quel prix ? Et par reconnaissance et par amour, ayant été sauvés, nous voulons aussi rester sauvés et apprendre et prendre à notre compte eh bien, ces ordonnances du Seigneur, apprendre à nous nourrir. Un enfant qui ne mange pas, il est très vite chétif, il devient faible, puis malade, malheureusement parfois il peut mourir. Voilà. Donc c'est vital pour nous de nous nourrir de la parole de Dieu. Chaque jour, la manne, elle descendait chaque jour, et elle descendait avec la rosée. Et vous le lirez, cette rosée, elle évoque dans le texte, elle est le symbole de l'action vivifiante et sanctifiante du Saint-Esprit. Lorsque nous lisons cette parole, et lorsque nous la recevons dans notre cœur comme étant véritablement la parole de Dieu qui agit en nous, alors elle produit un effet sanctifiant. Jésus a dit « Sanctifie-les par ta parole ». C'est très mystérieux ce pouvoir de l'Écriture, mais c'est tellement réel. Elle suscite en nous, eh bien, une aspiration, un désir. Elle vit en nous, elle est réellement vivante. Elle fait, ça vous arrive probablement, mais il y a des moments où lorsque il m'arrive de tomber sur des passages et ils rentrent tellement en résonance avec mon esprit que, vous savez, c'est comme quand on a une poussée d'adrénaline, ça devient physique, le cœur se met à battre un petit peu plus vite. Vous savez, c'est comme quand ça suscite une émotion dans notre cœur, n'est-ce pas ? C'est la vie du Seigneur, c'est la vie de l'Esprit, du Saint-Esprit en nous, qui se manifeste par cette action bienfaisante. La manne, elle descendait donc avec la rosée. Il est dit qu'elle ressemblait à une graine de coriandre, et la, c'est tout petit le coriandre, vous voyez, c'est un peu comme des graines de poivre, un petit peu plus petit même. Et elle avait l'apparence du bdellium. Le bdellium, c'est l'évocation de ce qui était dans le jardin d'Éden. Et vous savez que cette parole, elle renouvelle notre espérance. Elle renouvelle notre espérance. De telle sorte que, oui, nous pouvons vivre déjà dans le ciel, assis dans les lieux célestes avec le Seigneur, tout en ayant les pieds bien campés sur la terre. Voilà. Et en même temps, elle était petite comme cette manne, elle était toute petite comme des graines de coriandre, et il fallait que chacun en ramasse un homère. L'homère, c'est la dixième partie de l'épha, dit la Bible, c'est-à-dire à peu près 4 litres et demi. Ça veut dire qu'il fallait prendre le temps de la ramasser. C'était pas juste un verset, vous savez, le verset du jour, du trésor quotidien, ça c'est très bien. C'est très bien, pensez à vous inscrire d'ailleurs. C'est très bien, le verset quotidien, c'est une bonne chose. Ou la bonne semence, c'est très bien aussi. Voilà, il y a d'autres calendriers qui sont très très bien aussi. Hein, voilà. Mais Non, prenons un peu plus de temps. Encore une fois, c'est une discipline. Je sais qu'il faut se lever tôt, parce qu'en en fait, il fallait la ramasser avant que le soleil ne se lève, la manne. C'est pour nous une indication. Avant que le soleil se lève, vous savez, à l'époque, on travaillait en quelque sorte, avec la course du soleil. Voilà. Quand le soleil se levait, ben voilà, c'était le début de l'activité. Et quand il se couchait, ben voilà, on arrêtait l'activité dans les champs. Bref, on rentrait, etc. On mettait les brebis à l'abri, etc. Et avant de commencer l'activité, voilà. Voyez, c'est une question de discipline de vie. Bref, si nous faisons cela, nous éviterons bien des écueils qui pourraient nous amener à faire naufrage par rapport à la foi. Et notamment, eh bien, ces écueils très affûtés, très tranchants, habilement camouflés de la séduction spirituelle. Donc la méconnaissance, l'ignorance au sujet des Écritures, eh bien, c'est quelque chose, c'est vraiment un danger réel. Ensuite, c'est un terrain favorable, en tout cas, à une séduction potentielle. Ensuite, le Seigneur dit, eh bien, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Alors, la puissance de Dieu. Vous avez remarqué que depuis plusieurs années maintenant même, beaucoup de gens courent après la puissance de Dieu. Les gens recherchent la puissance de Dieu. On entend parler de puissants ministères, on entend parler de ministères de délivrance, on entend parler de ministères de guérison, de ministères de puissance, etc. Mais moi, je ne trouve pas ces expressions dans la parole de Dieu. Voilà. Ah, d'accord, ok, merci beaucoup. Voilà, vous savez, moi, je suis un méridional, donc j'ai besoin de bouger. Alors, c'est vrai que parfois, on n'entend pas bien.
Voilà. Ah. Voilà. Donc, alors c'est ainsi que, eh bien, certains sont prêts à courir. Ils entendent parler que tel ministère qui a de grands résultats, où il y a beaucoup de guérisons, il y a beaucoup de... Voilà. Alors ils sont prêts à courir pour être au bénéfice de ces ministères-là. Vous savez, il faut être prudent. Quand vous entendez parler de telle personne ou de telle autre qui demandez conseil avant de vous déplacer, demandez conseil pour savoir si ce ministère, d'abord, c'est quelqu'un qui a un bon témoignage. Il y a de très beaux ministères d'évangélistes accompagnés avec effectivement les dons spirituels, je dirais, qui sont propres au ministère de l'évangéliste, avec les dons de guérison, par exemple. Et c'est un plaisir d'entendre ses frères annoncer l'évangile avec un cœur entièrement au Seigneur, vraiment se cachant derrière la personne de Jésus, mettant toujours en avant la personne de Jésus, etc. Et c'est une grâce, c'est un bénéfice, c'est un enrichissement permanent de pouvoir être au bénéfice de tel ministère. Mais si ça n'est pas le cas, et si ce frère est un faux frère, si c'est un séducteur, vous courez le risque parce que vous n'avez pas une bonne idée de ce qu'est véritablement la puissance du Seigneur, vous courez le risque de tomber dans une séduction spirituelle et d'être séduit par quelqu'un comme Élimas, par exemple, Bar Jésus, qui était magicien, donc qui faisait des prodiges et des miracles. Et ces faux prophètes, ils feront de grands prodiges et de grands miracles, je le rappelle, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Donc ne nous exposons pas donc, à une telle séduction. Alors bien sûr, attention où nous allons chercher la puissance du Seigneur. D'abord, j'ai observé, j'ai recherché dans la Bible, vous pourrez rechercher si vous avez une concordance, c'est très simple, ou la Bible online ou que sais-je, voilà. Mais essayez de taper « recherche puissance », vous ne trouverez absolument aucun verset. Il nous est demandé de rechercher Dieu, bien sûr, de rechercher l'amour, de rechercher la foi, de rechercher la justice, la piété, la patience, la paix, de rechercher le bien envers tous, la sanctification. Enfin, il y a beaucoup de choses que nous sommes invités à rechercher, mais on n'est pas invité à rechercher la puissance de Dieu. Jésus a dit, vous recevrez une puissance. Celui que nous devons chercher, celui que nous devons chercher tout particulièrement, c'est le Seigneur Jésus. C'est lui que nous devons rechercher. 1 Corinthiens chapitre 1er verset 9 nous dit que Dieu nous a appelés à la communion de son Fils. C'est lui que nous devons rechercher. Pourquoi c'est lui ? Parce que c'est lui qui baptise dans le Saint-Esprit. J'insiste sur l'expression « baptiser dans le Saint-Esprit » parce que l'expression « baptiser du Saint-Esprit » pardon d'être... Vous allez dire ah, « ce frère, il est un peu tatillon hein ». Mais peut-être que vous avez peut-être raison, voilà. Je suis peut-être un peu tatillon. Mais baptiser du Saint-Esprit, ça sous-entend que c'est le Saint-Esprit qui baptise du Saint-Esprit. Ça n'est pas le cas. C'est Jésus qui baptise dans le Saint-Esprit. C'est lui qui nous plonge, qui nous immerge dans la puissance de l'Esprit de Dieu jusqu'à ce que étant rempli dans le cœur, il y ait comme un débordement qui vienne sur nous et qui transforme notre vie. Quel est le but du baptême dans le Saint-Esprit ? Ça, c'est important de le rappeler. Je pensais que c'était important de le rappeler, vous le savez déjà, mais le Saint-Esprit n'a pas été donné à l'Église et aux croyants que nous sommes pour qu'ils puissent faire des prodiges et des miracles. Parce que les apôtres faisaient des prodiges et des miracles avant d'avoir reçu le baptême dans le Saint-Esprit. Dans Luc chapitre 9, vous le lirez, le Seigneur Jésus les a envoyés, d'abord les apôtres, il les a envoyés avec le pouvoir de chasser les démons. Quelle puissance ! Avec le pouvoir de guérir les malades. Quelle puissance ! Oui ou non ? Mais vous le lirez. Et quand ils sont revenus, alors là c'était les 70, il y a eu deux étapes. Quand les 70 reviennent, Luc chapitre, je crois que c'est Luc chapitre 10, c'est verset, Luc chapitre 10, verset 20 peut-être. Ah, j'ai plus. Enfin, tiens, vous le chercherez. Eh bien, vous verrez. Mais vous connaissez ce passage. Les disciples sont tout heureux parce que même les démons sont soumis. Donc ils avaient reçu cette puissance-là avant d'être remplis du Saint-Esprit. Pourtant, le Seigneur Jésus, juste avant son ascension, leur a dit « Restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Actes chapitre 1, verset 8, « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, et vous serez... » Voilà le but de la puissance du Saint-Esprit, c'est transformer notre être pour que soit amplifié dans notre vie le fruit de l'Esprit, pour que nous puissions manifester dans notre vie, dans notre témoignage quotidien, à la maison, dans la famille, au travail, dans le voisinage, avec mes amis, pour que nous puissions manifester le caractère de Jésus à travers toutes les composantes du fruit de l'Esprit. Voilà le but réel du baptême dans le Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'ils ont reçu à la Pentecôte, les apôtres et, tout, et ceux qui étaient réunis avec eux? Ils ont reçu la capacité d'aimer comme Jésus les avait aimés. Voilà le but du baptême dans le Saint-Esprit. Et les faux prophètes vous diront que voilà, l'onction du Saint-Esprit, gloire à Dieu, c'est biblique, l'onction du Saint-Esprit. Eh bien, c'est par l'onction de l'Esprit qu'ils font ceci, cela, et etc. Et ils font croire, et pardonnez-moi l'expression, ils se font mousser, ils se prêchent même. C'est toujours pareil, ils essaient d'impressionner leurs auditoires pour dire que eux, ils sont plus que vous. Ils sont plus que vous. Et donc, si vous voulez recevoir quelque chose de Dieu, ben, faut passer par eux. Mais ça, c'est faux. C'est faux. C'est une grave erreur. La puissance de Dieu, d'abord, elle n'est pas dans les formules. La puissance de Dieu n'est pas dans l'expression « au nom de Jésus » ou que sais-je encore. Souvenez-vous, les fils de Séva, acte chapitre 19, verset 13. Les fils de Séva, c'était voilà, des gens qui voulaient imiter Paul. Et ils prétendaient donc avoir reçu quelque chose, notamment pour chasser les démons. Puis un jour, ils sont tombés sur quelqu'un qui était vraiment possédé. Et ils ont dit, voilà, au nom de Jésus, eh bien voilà, vous l'avez là. Je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Vous savez ce que l'Esprit il a répondu? Je connais Jésus et je connais Paul. Mais vous? Et ils se sont jetés sur eux. Enfin, cet esprit s'est jeté sur ses fils de Séva et ils sont partis dans la honte, dans la confusion, nus. Voilà. C'est pas parce qu'on dit au nom de Jésus, la puissance de Dieu, elle n'est pas dans les formules. La puissance de Dieu, elle n'est pas non plus dans des hommes. Elle n'est pas dans des hommes. Je vous ai donné l'exemple de l'apôtre Pierre, qui, quand il a remarqué que les regards étaient fixés sur lui, après que le boiteux de naissance ait marché, parce qu'il l'avait fait lever au nom de Jésus et pour encourager sa foi, il l'avait pris pour essayer de l'entraîner dans la foi. Et tous les gens le regardaient. Il dit, non, mais ce n'est pas nous. C'est le nom de Jésus. Et même dans l'Ancien Testament, rappelez-vous, Naaman, le Syrien lépreux. On lui a dit que le prophète Élisée le guérirait de sa lèpre. Je passe toute l'histoire, vous la connaissez. Donc, il s'est rendu chez le prophète Élisée avec déjà tout le scénario dans sa tête. Il pensait qu'une grande réunion serait organisée et que le prophète, il viendrait, il serait là, il agiterait la main sur la place, etc. Ce serait extrêmement démonstratif. Mais quelle n'a pas été sa déception lorsqu'il est arrivé et que Élisée, qui était un homme de Dieu authentique, il ne s'est pas déplacé, mais il a envoyé son serviteur avec une parole de Dieu. « Va te tremper 7 fois dans le Jourdain. » Ça, c'était pour apprendre à Naaman que la puissance de Dieu, elle n'est pas dans un homme, mais elle est manifestée à travers l'obéissance à la parole du Seigneur. C'est très lié, l'Esprit de Dieu et la parole de Dieu. Comment dirais-je ça? Ils sont très, très liés. Jésus n'a-t-il pas dit, les paroles que je vous ai dites, elles sont esprit et vie. Honorer la parole de Dieu, c'est honorer Dieu. Avoir une attitude de déférence vis-à-vis d'elle, c'est permettre, c'est donner la possibilité au Saint-Esprit de venir nous expliquer cette parole. L'onction que vous avez reçue, dira Jean, elle vous enseigne toutes choses qui viennent de la parole. Donc, bien-aimés frères et sœurs, c'est important, voilà, d'avoir une bonne compréhension des Écritures, mais de la puissance du Seigneur. La puissance du Seigneur, elle se manifeste et elle s'accomplit dans, oui, je vais dire, dans la faiblesse d'une vie humaine qui est donnée à Dieu, qui est livrée au Seigneur. Jésus, vous savez, Paul a eu des soucis de santé, une opposition diabolique, voilà, un ange de Satan pour l'empêcher de s'enorgueillir. Des révélations qu'il avait reçues étaient là dans sa chair et on ne sait pas vraiment quelle était cette écharde particulière, à quoi ça correspondait. On pense qu'il s'agissait d'une maladie des yeux, mais bon, ce ne sont que des hypothèses. Mais bref, il a prié le Seigneur de l'en délivrer. Le Seigneur lui a dit « Ma grâce te suffit. » Parce que ma puissance, elle s'accomplit dans la faiblesse. Dans la faiblesse. Alors où faut-il la chercher, cette puissance? Eh bien, cette puissance, Dieu l'a déployée dans la personne de Jésus. C'est pour ça que c'est en lui qu'il faut chercher toujours cette puissance. Éphésiens chapitre 1er. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce texte. Voilà, parce qu'il est important. Pourrait-on prendre Éphésiens chapitre 1er, verset 19, s'il vous plaît, si on peut l'afficher? C'est bien. Voilà, je vais attendre. Voilà. Quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance? Notez, l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. On continue. Il l'a déployée en Christ. En Christ, en le ressuscitant des morts. Et vous savez ce qu'il a dit, Jésus, après la résurrection? Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et si nous voulons rechercher la puissance du Seigneur, la puissance de Dieu, eh bien c'est en Christ qu'il faut la chercher. Et le Seigneur va la manifester, eh bien, à travers le don, le baptême dans le Saint-Esprit. Mais encore une fois, donc, ne nous trompons pas et ne nous faisons pas piégés donc, par ces artifices des faux prophètes et des séducteurs. C'est une puissance qui nous est donnée pour aimer notre prochain. Voyez, la puissance que Pierre, par exemple, il a reçue le jour de la Pentecôte, c'est vraiment cette puissance pour aimer, pour résister à l'adversité. Souvenez-vous, lui qui avait renié le Seigneur, lui qui avait pourtant chassé les démons, guéri des malades, qui avait vu les œuvres du Seigneur, qui avait même été associé à des prodiges, il a marché sur les eaux. Il a marché sur les eaux, sur des eaux vraiment tumultueuses. Il a vécu tout cela. Pourtant, voilà. Malheureusement, il a failli, il a chuté. Mais regardez comment le Seigneur est venu le chercher. C'est extraordinaire. C'est magnifique de voir comment le Seigneur, non seulement il relève son bien-aimé serviteur, mais comment dirais-je, non seulement il le rétablit, mais il le réhabilite devant les autres. C'est merveilleux ce que fait le Seigneur. Quel amour. Quel être merveilleux. Alléluia. Il fait tout à merveille. Béni soit le Seigneur. Alors, bon, si vous voulez, peut-être, écoutez, je vous propose peut-être de conclure en vous donnant les références bibliques pour les autres terrains qui sont des terrains favorables au développement d'une séduction. Par exemple, 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 9. Voilà. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 9. Voici ce que nous lisons. « Il est question de ce moment, ce temps. Alors là, nous vivons des temps qui sont postérieurs à l'enlèvement de l'Église. Mais cet enlèvement de l'Église va certainement laisser, malheureusement, bien des personnes qui auront fréquenté les assemblées locales, les églises locales, dans le désarroi et dans la détresse. Regardez ce que dit le Seigneur. L'apparition de cet impie, il est question donc de l'Antichrist, se fera, voilà, par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Recevoir l'amour de la vérité, ou recevoir la vérité avec amour. C'est important de recevoir la vérité, eh bien, avec amour. Même si la vérité, parfois, et c'est normal, elle nous reprend. Elle nous censure, elle nous exhorte. Eh bien, c'est bon quand même de la recevoir. C'est faire preuve d'humilité. Même si parfois elle est apportée, comment dirais-je, elle peut être apportée maladroitement, parce que les prédicateurs, les serviteurs de Dieu commettent parfois des maladresses parce qu'ils ne sont que des hommes, malheureusement. Mais que Dieu nous aide toujours à recevoir avec amour la vérité pour pouvoir nous remettre en question, pour pouvoir nous placer devant le miroir de la parole de Dieu comme on le fait tous les matins devant le miroir physique. Et corriger ce qui a besoin d'être corrigé dans notre cœur, pour que nous puissions, eh bien, être agréables au Seigneur, tout simplement, qui va le voir. Et le plaisir du Seigneur se manifestera. Vous savez, quand nous pouvons ressentir le plaisir du Seigneur dans notre cœur, par son esprit, nous pouvons ressentir sa joie, nous pouvons ressentir son approbation, frères et sœurs. Notre Seigneur n'a de cesse de vouloir nous encourager, toujours. Le manque d'amour, un état d'esprit qui recherche l'indépendance par rapport à l'Église, c'est un état d'esprit donc qui consiste à vouloir faire des choses pour Dieu, mais sans aucune concertation avec l'Église ou avec les responsables de l'Église. Ça, c'est un état d'esprit qui est favorable pour la séduction. C'est favorable. Voilà. Proverbe chapitre 18, verset 1er, nous dit, Proverbe chapitre 18, verset 1er, je vais passer vite ensuite. Voilà. Celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît, il s'irrite contre tout ce qui est sage. Se tenir à l'écart des projets de l'Assemblée pour suivre ses propres projets au motif que, eh bien, moi je veux dépendre que de Dieu. Il y a des gens, je le dis avec le sourire, mais ça ne m'a pas fait sourire. Un jour, j'ai entendu ça. Vous savez, moi, je ne dépends que de Dieu. J'ai dit à cette personne, oulala, alors vous êtes vraiment en danger. Vous êtes vraiment en danger. Parce que l'Église, vous voyez, ce n'est pas pour rien que le Seigneur Jésus, il prend pour expliquer le fonctionnement de l'Église, le modèle du corps. Dans un corps, d'abord le corps c'est un organisme qui est vivant, il est structuré, il est organisé pour que eh bien, tout le corps puisse se développer d'une manière harmonieuse. Et le corps, il est fait avec une tête et avec des membres qui sont chacun à leur place. Et c'est parce que les membres sont chacun à leur place que le corps, il peut avoir un développement gracieux, etc. Imaginez que ma main dise « Moi, je ne veux plus dépendre de mon bras. Moi, je veux dépendre directement de la tête. » Imaginez que ma main, pof, elle vienne là sur la tête, voilà. Imaginez que mon pied dise la même chose. Vous me voyez rentrer à cloche-pied avec un pied ici et une main là, mais vous allez courir, vous allez vous enfuir. Parce que vous allez dire, mais c'est tellement disgracieux, c'est effrayant. Nous sommes membres les uns des autres. Vous savez pourquoi le corps il fonctionne bien ? Parce que tout part de la tête et tout passe par les membres. Et pour que mon petit doigt vienne me gratter le lobe de l'oreille, oui. Eh bien, il a fallu qu'un ordre passe, descende dans le cou, passe par l'épaule, descende dans le bras, et d'une manière coordonnée, vous voyez, il y a cette coordination qui fait que le petit doigt, il peut remplir sa fonction, voilà, à laquelle la tête l'a appelé. En l'occurrence, gratter le lobe de mon oreille, voilà. Mais vous comprenez l'image, n'est-ce pas ? Voilà. Donc c'est dangereux de vouloir faire des choses de son côté, voilà. C'est dangereux parce que si on fait les choses de son côté, c'est souvent parce qu'on cherche une reconnaissance personnelle. C'est une démarche qui tente à mettre en avant plutôt l'orgueil que l'humilité, ce type de démarche-là. Enfin, dernier élément, 1 Jean chapitre 4, verset 6. Voilà, j'ai pris un peu de temps, mais c'est la dernière réunion. Après, je vais partir en courant. Hein. 1 Jean chapitre 4, verset 6. Voilà. Encore un texte vraiment précieux que nous avons, que le Seigneur nous a donné. Ce texte n'a pas besoin d'ailleurs de beaucoup d'explications. On peut lire, voilà, le verset premier d'abord. Peut-être le verset premier. « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. » Et puis, dans la même ligne, nous avons le verset 6, où Jean dit ceci, « Nous, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. » Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Et vous pourrez remplacer le mot erreur par séduction parce que c'est exactement ce mot dans le texte original. C'est toute la différence. Quand on est prompt à écouter, à se mettre à l'écoute les uns des autres. Quand on a de la bonne volonté pour se soumettre aux responsables qui n'ont pas une tâche facile du tout, mais quand on manifeste cette bonne volonté, eh bien nous pouvons être sûrs que c'est l'esprit de la vérité qui nous anime. Si nous avons dans le cœur ce désir de rébellion, d'insoumission caractérisée. Je ne dis pas, parce que ça peut arriver à tout le monde, malheureusement, ces réactions charnelles qui font qu'on peut avoir un mouvement d'humeur, après on le regrette et on va demander pardon. Je ne parle pas de cela. Je parle de cette récurrence, cette constante répétition à ne jamais être d'accord, à manifester ce caractère de l'insoumission constante. Ça, c'est dangereux. C'est dangereux parce que ça nous met à la marge de l'Église et ça nous rend potentiellement accessibles à la séduction et à la chute, malheureusement. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, Je n'ai pas eu le temps d'aborder. Je pensais pouvoir aborder avec vous les moyens donnés à l'Église pour combattre, pour surmonter plutôt la séduction spirituelle. Mais ces moyens, ils sont la parole de Dieu, le don du Saint-Esprit. J'ai essayé de, malgré tout, de donner quelques éléments que j'ai pu vous donner. Je n'ai pas pu vous parler des ministères dons de Christ. Il aurait fallu en parler, mais c'est important aussi, parce que ce sont ces moyens. Tenez, on va simplement conclure. Vous allez dire que j'en finis plus de conclure, hein ? Et vous aurez raison, mais je vous promets, c'est le dernier texte que nous allons prendre, Éphésiens, parce que finalement, ça résume bien voilà ce qu'on peut dire au sujet des ministères. Éphésiens, chapitre 4, verset 11. Voici ce que nous lisons. Je parle bien des ministères dons de Christ à l'Église. Il est question donc de Jésus, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Nous avons ici toute la croissance de l'état d'enfant à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Et regardez le verset 14. « Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction. » Mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Prions le Seigneur, s'il vous plaît. Nous te rendons grâce, notre Père et notre Dieu, parce que ces textes font du bien à notre âme, Seigneur. Nous te sommes reconnaissants pour le don du Saint-Esprit, qui rappelle ces choses à notre cœur, ces textes si précieux, ces paroles si précieuses. Nous voulons les garder. Ô Seigneur, aide-nous à garder le dépôt précieux de ces choses par le Saint-Esprit.